Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nuit Américaine, une déclinaison de votre émission Vive le cinéma sur Aligre FM 93.1, en direct jusque midi, et toujours avec ce générique d'Arabesque, le film Stanley Donen. Donc une émission présentée par Bernard Payen, réalisée ce matin par Enrico Mastrogiovanni. Ce matin, nous parlons d'un film épique, un film historique franco-algérien qui sort en salle mercredi prochain, avec des canons, des chevaux, des palais, des complots et des combats. Tragédie shakespearienne à Alger, en quelque sorte, mais aussi un film très intime et très sensoriel. Le portrait d'une femme, le portrait aussi d'un corps féminin combattant, résistant. Le film s'intitule La dernière reine, signé Damien Ounouri et Adila Ben Dierad, qui sont avec nous pour en parler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors on va parler du film dans quelques instants, mais d'abord une question traditionnelle un peu dans cette émission qui s'appelle Nuit américaine. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que ça a évoqué pour vous la nuit américaine, qui, je le rappelle, est un procédé cinématographique consistant à filmer la nuit quand il fait jour. Est-ce que vous l'avez utilisé dans La dernière reine, par exemple ?
Je suis en train de réfléchir, j'ai l'impression que non, mais on aurait pu. Non, on a juste... les nuits qu'on a tournées de jour, c'était en intérieur, donc on n'a pas utilisé le procédé de nuit américaine. Mais après, moi, ça m'évoque des séries que j'ai vues gamin, et des vieux films, quand je vois des fois des westerns, des choses comme ça. Et le film de Truffaut aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr. Adila, j'imagine que c'est pareil, le film de Truffaut, notamment.
Oui, après, ça a toujours été une question, comment filmer la nuit, quand on prépare notre film. À chaque fois, on en parle avec Damien. Comment filmer la nuit ? Une vraie nuit, une fausse nuit ? Comment ? C'est des choix poétiques, après.
Complètement.
Et après, technique, puisque ça, on a vraiment la question, on en parlait beaucoup avec le chef opérateur du film, Shadi Chaban, c'est qu'on n'aime pas trop ces nuits dans le cinéma qu'on fait souvent, où tout est bleu. Comme si la lune faisait une lumière bleue, et les peaux sont bleues, et nous, on était au XVIe siècle, donc il y avait tout cet enjeu du feu. Et donc on essaie de faire des choses des fois plus clair-obscur et jouer que sur le feu, mais c'est pas évident, ouais. C'est toujours un challenge.
Mais c'est une vraie question, particulièrement en ce moment, je trouve, au cinéma, où on voit plus trop de nuits noires, en fait. Oui. Donc je sais pas si c'est, pour quelle raison d'ailleurs, mais effectivement les nuits sont beaucoup bleutées.
Je pense qu'il y a une espèce de convention qui s'est créée. C'est comme quand on a une scène dans un sous-marin, on met toujours le bip, même dans les sous-marins ultramodernes, alors que ça n'existe plus.
C'est
quelque chose qui fait que le pack de croyances chez le spectateur est là. Et... Mais j'espère que ça... Je pense qu'avec le numérique, ça va changer aussi. C'est... Même si ça fait 20 ans qu'on a des caméras quand même très sensibles, ben pas tout à fait, mais qui fait qu'il y a eu cette convention créée, je pense qu'elle est peut-être sur la... à l'époque de la pellicule et qui est restée. Mais depuis notamment les films de Michael Mann, on voit que les nuits vont... Michael Mann a quand même révolutionné le filmage des nuits, depuis, je pense, Collatéral.
Complètement, ouais. Et c'est vrai que le numérique a tout changé dans le traitement cinématographique des nuits.
Ouais.
La nuit, c'est aussi les mille nuits, et c'était le nom de la troupe d'Adila Ben Imerad, c'est ça?
Alors,
la troupe de théâtre, non?
Alors oui, pendant des années, j'ai formé des comédiens, j'ai donné des ateliers de théâtre de rue, ensuite s'est constituée une troupe de théâtre. Et effectivement, nos premiers textes, c'était des textes des mille et une nuits, c'était pour renouer aussi avec l'imaginaire collectif, voilà, ce qui nous a tous marqués, puisqu'on se raconte les histoires des mille et une nuits depuis des générations en Algérie. Et c'était pour renouer avec la tradition orale, et aller dans la rue comme ça. Alors, il n'y avait pas que des contes des mille et une nuits. Mais après, moi, j'ai travaillé avec le metteur en scène anglais Tim Supple. On avait inauguré l'Opéra de Toronto, le nouvel Opéra de Toronto. On était à Édimbourg, c'était les mille et une nuits. C'était une expérience incroyable. Oui. Théâtre de rue en Algérie, on a traversé... tout le pays, je crois. Et beaucoup de comédiens donc, qui sont dans le film La Dernière Reine, viennent aussi de cette troupe de théâtre.
Il y a une vraie fidélité dans le travail.
Et puis on s'est construit ensemble. On a commencé, moi j'animais les ateliers de théâtre de rue, j'avais 23 ans, et j'avais des gens qui venaient de partout de l'Algérie. Ça a duré pendant des années, d'autres ont repris le relais, ils ont fait leur façon de faire du théâtre de rue. Il y en a qui ont continué, qui ont mis en place leur méthode. C'était aussi pour moi, en tant qu'actrice et comédienne de théâtre, de mettre en place une sorte de méthode de mise en scène, de direction d'acteur. C'était un espace de recherche aussi et de grande liberté. Comment on arrive à se connecter au public, comment on arrive à se connecter à l'espace vide. En fait, on arrive à Bablouad, on joue dans un espace très grand, on arrive dans le quartier Messonnier à Alger, on arrive à Ain Safa, on est aux frontières du Sahara, dans une ville avec un autre son, et on débarquait comme ça. En fait, on surgissait dans la rue sans aucune autorisation. D'ailleurs, la radio nous suivait, la radio algérienne. On avait quelques présentateurs courageux et qui nous disaient « Vous n'avez pas d'autorisation ?» Et vous jouez. Je disais « Mais oui, il faudrait que la police nous attrape. » Mais quand la police arrivait, ils adoraient ça. Donc ils nous disaient « Moi, j'ai des enfants, si vous voulez venir jouer dans mon quartier. » Enfin, voilà. Et cette troupe, oui, c'est aussi toute une histoire. Oui, on a grandi ensemble, oui. Grandi ensemble en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, sur le travail de la langue, qui a aussi servi à La Dernière Reine, notamment avec mon vrai partenaire de théâtre de rue et de théâtre tout court, qui est Alak Bouharara, qui a travaillé les dialogues de La Dernière Reine avec moi et qui a le rôle du garde de la reine. Donc c'est avec lui qu'on a fait un énorme travail sur la langue. Oui.
Parce que évidemment on va y revenir, mais il y avait plein d'enjeux liés à ce film, notamment de faire un film qui se passe en 1516, pardon, au XVIe siècle. Voilà.
Oui, un an après 1515.
C'est ça, donc c'est facile à retenir. Mais effectivement, ce n'est pas la même langue. C'est pas le même,
Alors, ce n'est pas la même langue, mais on est en 1516 et nous, on est en 2023 et il faudrait que le public se connecte à 1516. Donc, on a travaillé une langue comme on fait dans le cinéma en général. Je veux dire, que ce soit les films anglo-saxons ou français, on ne parle pas la langue du 16e quand il faut que le public puisse s'identifier. Mais on a tout de même travaillé une langue un peu comme ça. On a trouvé un équilibre, comme une espèce de... nouvelle langue, mais en même temps, le retour des Algériens qui voient le film et des arabophones ailleurs que les Algériens. On a vraiment beaucoup d'engouement sur le travail de la langue, parce qu'en même temps, elle est très naturelle et elle est assez juste. Enfin là, je dis ce qu'on nous dit. Voilà. Et par exemple, il y a une télé égyptienne qui a pris le film. C'est une première pour un film algérien. Donc, ils étaient ravis... dans beaucoup de pays orientaux, d'enfin avoir de l'Algérien que eux aussi comprennent.
Et ce qui était intéressant, c'était aussi de rappeler que à Alger à l'époque, il y avait beaucoup de langages très différents.
Oui.
Il y avait beaucoup de langages, beaucoup d'accents, c'était très très métissé.
Mmh. Oui, Alger à l'époque avait un côté Nouveau Monde, un petit peu New York, donc un quartier anglais, un quartier hollandais. C'était un port en devenir, donc on a ce mélange de langues. L'arrivée des corsaires, avec des corsaires qui viennent du tout le pourtour méditerranéen, mais aussi d'Europe de l'Est, jusqu'au nord de l'Europe, tous ces Hollandais, et d'où aussi le personnage d'Astrid, la compagne de Barberousse, jouée par Nadia Tereskiewicz, qui, elle, parle finnois et arabe dans le film. Donc il y avait cette espèce de melting pot de peuples et de langues, et qui nous plaisait beaucoup. Et moi, c'est un truc que j'ai souvent aimé. Ça, c'est vrai que, par exemple, dans le film Ghost Dog de Jarmusch, il y a ce truc-là des deux hommes qui parlent, des super amis, mais qui ne se comprennent pas. Sauf que nous, à l'époque, à Alger, ils se comprenaient, puisqu'il y avait le sabir, cette fameuse langue des ports, mélange d'italien, d'espagnol et d'arabe. Et selon la géographie, la proportion de langues était plus importante que les autres. Et du coup, à Alger, on parlait arabe, on parlait algérien.
Alors, je reviens un peu sur vos parcours différents. Adila, donc on vient de parler du théâtre, 2008... avec la création du théâtre du printemps.
Oui.
C'était ça, un peu les origines, on va dire.
On m'emmène rarement aussi loin. Mais merci. Alors en 2008, j'avais monté une pièce de théâtre qui était l'adaptation du Bel Indifférent de Cocteau. Et on avait monté cette pièce et on n'avait pas de salle, en fait, de théâtre régionaux étatiques qui voulaient nous accueillir. Et s'ils nous accueillaient, c'était juste pour deux dates. Et nous, on voulait vraiment faire plusieurs dates, enfin vraiment comme au théâtre. Donc on avait squatté un lieu, on nous a permis de le squatter, on a fabriqué carrément un théâtre éphémère qui s'appelait le Théâtre du Printemps. Et c'était fou parce que tout le monde est venu à cet endroit-là. Et c'était d'ailleurs là que j'ai pu commencer le cinéma, puisque à la première, Mirza Kalouach était venu avec Biouna, et j'ai complètement flippé. Il y avait tous les gens du cinéma, c'était un vrai événement, c'était quelque chose qui paraissait assez affranchi. Mais nous, voilà, on avait 22 ans, 23 ans, on était un peu fous. Et c'était le Théâtre du Printemps, c'était un peu le début d'aller dans un endroit où on ne nous attend pas. Brouiller un peu les pistes, sortir du cadre, mais en tout cas se rapprocher de notre public algérien. C'était très important et ça l'est toujours.
Et après, il y a eu le cinéma, notamment avec Mirza Kalouach, justement.
Ah bah oui, bah tout a commencé au Théâtre du Printemps, puisque Mirza va faire le film Normal, qui raconte l'histoire d'une troupe de théâtre. Mmh. Et en fait, il s'inspire de cette troupe qu'on était au Théâtre du Printemps. C'est drôle, oui, c'est vrai. Et donc, on a fait ce film Normal, ça a été énorme, un gros débat en Algérie, puis ensuite Le Repenti. Et la troupe a continué avec Merzak sur au moins trois films.
D'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu, oui, ce parallélisme aussi avec La Dernière Reine, de continuer, de comme avec Mirza Kalouach, de prendre des acteurs du théâtre et de continuer à travailler ensemble, quelque part.
Oui, parce qu'il y a une grande tradition de théâtre en Algérie. Le théâtre est populaire en Algérie depuis très longtemps. Il y a les coopératives de théâtre avec des troupes qu'on trouve partout, même dans les toutes petites villes. Et donc, on a des acteurs un peu partout. Et on a vraiment ce patrimoine et ces gens-là. Et ça fonctionne. Le cinéma puise beaucoup dans les acteurs de théâtre. Oui. Mais voilà. Le cinéma qui vient plus des grandes villes et qui est un peu plus bourgeois, mais les acteurs qui viennent vraiment de l'Algérie, de partout.
Damien, alors le parcours est différent parce que l'apprentissage est fait d'abord en fac, en théorie, avec à Paris 3, Censier, et puis le premier film, c'est un film sur Jazanke.
Ah oui. Oui, oui, ça remonte aussi assez
ça remonte
loin,
mais c'était aussi fondateur parce qu'après, Jazanke, je crois, a coproduit votre premier long métrage documentaire.
Oui, oui, c'est vrai que Paris 3, c'est là où j'ai tout appris, où je me suis formé, on va dire, par la pensée. Et c'est aussi là où j'ai rencontré notre monteur actuel, Mathieu Laclos, et aussi mon sound designer qui fait le mix, Lee Danfong. Et à cette époque, j'avais Alain Bergala comme directeur. De master et qui nous a permis de faire un film plutôt qu'un mémoire théorique. Donc il fallait que ce soit un film lié au cinéma, et pour moi à ce moment-là, le cinéma le plus fort, le plus innovant venait d'Asie, et Jazz en queue en particulier. Donc on était parti un été, tout un été là-bas, faire un doc sur lui. Et c'est vrai que ça a été un petit peu fondateur, puisque ça allait filmer un cinéaste qu'on admire et le ramener en plus dans son village, dans sa province, et comprendre d'où vient son geste. En même temps, ça me faisait réfléchir au mien. Et c'est pour ça que le film d'après aussi, je retourne en Algérie, je fais un film sur mon grand-oncle, une histoire familiale, et Jazz en queue, du coup, est touché par le sujet. Il avait été aussi touché par nous, parce qu'on l'avait beaucoup embêté, mais en même temps, lui, il avait été aussi très tenace 10 ans plus tôt. Et il a coproduit le film, on a fini le film avec lui, en Chine. Et mes deux copains, Mathieu et Dan Dan, sont après restés en Chine, et ont fait leur carrière là-bas. Du coup, on reste toujours liés, finalement, maintenant, chacun de nos films, que ce soit le film suivant Kill Bill ou La Dernière Reine, le mixage se fait à Pékin. Et mon monteur, Mathieu, maintenant, il est à Taïwan, et l'étalonnage peut se faire là-bas aussi. Bon, pas sur la reine, mais... Donc il y a ce lien-là, oui, un peu atypique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, Kindil et le bar, c'est un film, un moyen-métrage qui a été montré sur Arte, qui a été montré à la Quinzaine des réalisateurs, qui a fait beaucoup de festivals, et c'est un peu c'est le film qui vous a réuni un peu ce moyen-métrage. C'est la première fois que vous avez travaillé ensemble vraiment de manière ample, et que vous avez réuni vos univers aussi, et vos collaborateurs, les gens qui aussi travaillent avec vous dans vos univers respectifs.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Alors, oui, absolument. Mais on avait beaucoup écrit ensemble avant avec Damien, des projets qui n'avaient pas forcément abouti. Et on avait aussi tourné pour se marrer en 2014 un clip qui avait eu beaucoup de succès en Algérie. Enfin, ça avait fait en tout cas beaucoup de polémiques aussi. Et donc là, on arrive avec Rindil qui se fait un peu très vite. Et on comprend que très vite, on n'arrivera pas convaincre des financeurs et à passer en commission, parce que à l'étranger ou même en Algérie, c'était un peu compliqué de dire voilà, c'est l'histoire d'une femme qui se transforme en monstre marin. Et donc ça faisait vraiment un peu bizarre, et puis on n'avait pas envie de cette attente-là. On avait déjà commencé à écrire La Reine, et puis on fait ce film très vite, Rindil, on le fait, et pendant tout le temps du montage et tout, et surtout quand à un moment on dépose notre film dans les festivals, là en l'occurrence c'était Cannes, moi je me souviens que je me réveillais la nuit avec des angoisses, mais en me disant mais qui va croire à cette histoire ? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec Damien dans notre imaginaire un peu touffu ? Est-ce que notre imaginaire est communicable aux autres ? Ça paraît évident maintenant, parce que le film a voyagé, mais quand on travaille à Alger comme ça, tout seul, entre nous, et qu'on a aussi toute la liberté, on n'a pas beaucoup de moyens, et en même temps, ça nous donne une grande liberté, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Est-ce que juste on peut communiquer ça aux gens ? Et voilà, je pense que la Quinzaine des réalisateurs, ils ont été suffisamment rock'n'roll pour nous accueillir, et ça nous a vraiment permis de prendre confiance aussi pour La Reine après. Parce que ça aussi, c'est de sacrés doutes.
Mais parce qu'il y a ce côté, Kindil, quelque part, est un film accidentel. Entre l'idée et le tournage, il doit y avoir 4 mois. Et 4-5 mois après, on est à Cannes. Donc tout ça, c'est moins d'un an. C'est un temps du coup très court pour un film. Sur un film sur lequel nous, il y a une urgence de faire ce geste, et en même temps, on n'a pas aucune pensée commerciale, ou parce qu'on nous dit c'est quoi ce film, c'est quoi ce format. Et on dit, il fera le format qu'il fait, il fait 40 minutes, et personne croyait que ce film pourrait voyager et vivre, et en fait, le film a prouvé le contraire. Mais quelque part, ça nous a un peu réconciliés, entre guillemets, avec nous-mêmes, parce que ça faisait peut-être presque 2 ans qu'on écrivait, qu'on essayait les guichets de financement traditionnels, notamment en France. Ça prenait pas trop, et parce qu'il y avait ce choc de nous deux, comme tu disais, il y a ces deux univers qui se rencontrent. Ça donne un côté, et moi-même, à la base, j'aime bien mélanger les différentes matières dans mes films. Donc c'est une matière qu'on peut qualifier un peu d'impure. Et du coup, faire concrétiser ce film, c'était une façon de dire, voilà, nous, à nous deux, c'est ça. C'est ça le cinéma qu'on veut faire. Peu importe finalement pour nous le genre, on va sûrement changer de genre à chaque film, mais ça nous a donné confiance. Et quand on est retourné à l'écriture sur La Reine, parce qu'on avait déjà écrit depuis, on avait commencé en 2014, donc on avait écrit une année dessus, ça nous a dit, en fait, on peut mettre des batailles, on peut mettre des univers... entre guillemets, plus cinéma de genre, avec le côté palais d'intérieur, intrigue de palais, féminine aussi. Et du coup, quand on a repris l'écriture, on avait un petit peu lâché les chevaux et on y allait à fond.
Tu m'étonnes.
Peut-être un peu trop.
Oui. En tout cas, Kindle sur une plateforme en ce moment.
Oui,
il continue
toujours
de voyager, ouais. Oui. Et d'être vu. Il a été beaucoup vu en Algérie. Ça a été quand même 2 millions de vues. C'est fou, hein, pendant le Covid, je crois que ça a été le film le plus vu. Qui fait que moi, quand je faisais mes tournées de théâtre, j'avais des jeunes d'entre 15 et 25 ans. C'est un peu devenu une espèce de film culte pour eux. C'est fou, hein, parce que...
Mais a posteriori...
C'est formidable.
C'est vrai que malheureusement, le fait qu'on n'ait pas vraiment de salle de cinéma en Algérie, on est un peu coupé de notre public naturel. Mmh. Et quelque part, au Covid, pendant le Covid, du coup, j'ai mis le film en ligne, sans partager, sans faire de publicité. Et c'est vrai qu'en moins de 2 ans, 2 millions de vues, on a rattrapé notre retard, on va dire, avec notre public, et qui, avec beaucoup de messages, de discussions aussi sur le public, sur qu'est-ce que c'est que ce film, ce genre, et en même temps tellement content de voir qu'en fait, la jeunesse, puisqu'on l'est plus nous, enfin, plus autant, mais c'est ces jeunes de 20 ans qui viennent et qui nous parlent tout le temps du film, alors que nous, on l'avait fait il y a 5 ans avant, c'est très étrange et agréable, et en même temps, du coup, ça donnait aussi quand même c'était un peu un moteur pour continuer à foncer dans le genre et dans un cinéma qu'on a peut-être moins vu, on n'a pas vu ou pas assez vu en Algérie.
Alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai point commun. Il y a beaucoup de points communs entre Kindi et le Bar, ce film, ce moyen métrage qu'on peut voir effectivement en ce moment sur cette plateforme Bref Cinéma. Et puis la dernière reine qu'on pourra voir en salle à partir de mercredi, c'est d'abord l'envie de faire un cinéma qu'on n'a jamais vu finalement en Algérie, enfin un cinéma de genre ou un cinéma là pour la dernière reine c'est un cinéma épique, pour Kindi le Bar il y avait une dimension fantastique, cinéma de genre intéressante, très inhabituelle, et puis l'envie de montrer aussi des personnages féminins très forts. Et de montrer qu'un corps féminin au cinéma pouvait s'imposer et être quelque part dans une forme de résistance. Il y a ça qui unit finalement ces deux films-là.
Oui.
Et qui est assez nouveau et qui peut-être explique le succès, en tout cas qui répond à un désir du public algérien.
Oui, il répond au désir du public et du nôtre parce que c'est vraiment une pièce manquante du puzzle. Il y a un trou noir. Trou noir, on n'a pas de film algérien au-delà du colonialisme, en fait. Il n'y en a pas, et on ne comprend pas bien pourquoi. On ne se pose pas trop la question au début, mais d'un coup, je ne sais pas comment on a trouvé cette liberté. D'un coup, on s'est dit, allez, on va loin, on fait un film d'époque, mais oui, c'est possible. On le rêvait au départ, on ne se rendait pas compte que ça allait être faisable. On le rêvait, et puis c'est devenu nécessaire. On a compris au fur et à mesure qu'on avançait dans juste cette envie de se raconter Alger au XVIe siècle avec Barberousse qui n'a pas de bras et qui a un bras en argent sculpté. Et puis cette femme qui, depuis le XVIe siècle, on conteste son existence, a-t-elle existé ou pas ? Tiens, un effacement, on a effacé une femme, ou en tout cas, on a désiré qu'elle existe si elle n'existait pas et on a désiré l'effacer si elle existait. Ah, les femmes, ça pose toujours problème. Et puis, l'effacement de ce XVIe siècle. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces effacements ? Pourquoi on en est là ? Pourquoi moi ou d'autres, tous les Algériens, on ne se voit pas, nous, avec nos ancêtres ? Je veux dire, c'est tout bête. Comme je disais, là, en ce moment, il y a les Mousquetaires en salle. Il y a eu combien de films sur les Mousquetaires ? Combien de téléfilms ? Combien de pièces de théâtre ? Combien d'adaptations littéraires, de variations ? Mais en fait, nous, on n'a rien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai, c'est ces pays frappés par le colonialisme qui a beaucoup rasé. On leur dit que ce sont de jeunes pays. En fait, attendez, on n'est pas si jeunes, on a quand même une profondeur historique. C'est juste qu'on a vécu une barbarie qui a tout effacé pendant un siècle, pendant 130 ans. Oui, la Casbah, on se rend compte très vite qu'elle a été effacée pendant le colonialisme à 2/3. Et qu'on se dit, mais pourquoi on a été détruit, effacé comme ça ? Ah non, va falloir reconstruire ça, c'est nécessaire. Je crois que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer à quel point c'est nécessaire d'aller à la reconquête de son histoire et de ne pas se dire « je viens de nulle part, en fait, je suis née en... » Enfin, ma mémoire, elle va en 1962 et c'est tout. Et du coup, c'était une vraie façon de renouer de façon très intime, très forte et un peu de rendre justice à cet Alger. Et par extension à cette Algérie qui a été rasée. qui a été un peu martyrisé quand même. Et puis, ça devenait beau, c'était beau, on découvrait que c'était en plus super beau. Et ça, c'est super quand même. C'était beau, c'était original, c'était, ça rendait fier. Il y avait des enjeux de cinéma. En tant que cinéaste et metteur en scène, il y a de quoi faire en mise en scène. Et après, ça a été que du plaisir. Et ça a été, je pense, toutes ces années, un parcours aussi de vie. Hein. Vraiment, ce film, moi, j'ai appris tellement de choses.
beaucoup de difficultés aussi.
Alors oui, alors du plaisir, là on reste dans le plaisir quand on travaille sur le cinéma, la mise en scène et l'histoire et les découvertes, tout ce qu'on a découvert. Après, de notre condition de cinéaste algérien et africain, on n'a pas de circuit de production qui permette de faire un film financièrement de cette ambition-là. Et d'ailleurs, quand on arrivait chez les plus gros, on ne les citera pas, ils nous disaient « Mais c'est incroyable, on n'a jamais eu une telle proposition d'Afrique. » Et nous, on était là « Alors, vous prenez ?» Et ils disaient « Ouais, non. » Et pourquoi ? Bah, parce qu'on a, on sait pas trop, on ne sait pas comment le public, on ne sait pas. Et en fait, qui allait défendre cette histoire à part nous ? Vraiment, ça a été aussi, c'est très original, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend de nous, de vous. Ah, vous attendez des choses de nous ? C'est-à-dire, expliquez-nous, vous attendez des choses de nous en tant que cinéaste algérien. On devrait arriver avec certains sujets et pas d'autres. Vous attendez des choses de nous en tant que réalisateur, réalisatrice qui faisons notre premier long. On peut faire un premier long audacieux aussi. Enfin, il y avait comme si il y avait des cadres. Et à chaque fois, on ne rentrait pas dedans. Et à un moment, je me rappelle, on était en Italie, on travaillait sur les costumes. Je disais à Damien, on avait eu un refus assez brutal qui nous disait, c'est assez kitsch, un peu orientaliste. Et là, j'ai fait, mais non, mais là, c'est grave. Ça ne peut pas être kitsch et orientaliste. Vous n'avez rien vu en image et un scénario. C'est-à-dire que maintenant, on va décider à notre place comment, nous, on doit raconter notre histoire. Et là, j'ai dit stop. En fait, on est sur le bon chemin. On va le faire avec peu d'argent. Et ça ne se verra pas, parce qu'on va tout faire pour que, à l'image, ça ne pêche pas. Et on va travailler tous les détails pour apparaître, justement, apparaître vraiment dans nos détails. Et je me suis dit, on va continuer dans cette solitude. On a continué longtemps dans cette solitude, en fait, d'être toujours hors cadre, pas tamponné, pas... parce que c'est nécessaire et parce qu'il fallait faire ça pour le cinéma algérien, il fallait faire ses costumes pour donner aussi un patrimoine de costumes au cinéma algérien, on n'en avait pas. Fallait reconstruire Alger, même si elle avait été rasée, on a reconstruit avec des bouts de palais par-ci, par-là. Il fallait lui redonner vie, il fallait faire apparaître ce qui avait disparu, parce que si on n'apparaît pas, on va finir par disparaître complètement, vous voyez. Et c'est devenu comme ça, c'est devenu une démarche, ce film.
Un petit peu une idée fixe. Après, c'est vrai que là, maintenant, le film est fait. Du coup, personnellement, moi, j'ai plus aucune peur ou sur n'importe quel film à venir et des registres auxquels on pourrait s'attaquer. Mais malgré tout, malgré ce travail de fourmi, ce marathon, parce que ça a pris, ça s'étale sur 7-8 ans, il y avait quand même en fond... une boule au ventre sur est-ce que cette direction artistique, est-ce que l'univers, on va y croire ? Est-ce que ce qu'on va filmer, où on va mettre des comédiens, on va y croire ? Est-ce que Adila Ben Dimera, Dedaï Ben Salah dans Zafira et Barberousse, on va y croire ? Donc moi, c'est un truc que je portais, parce que je savais qu'on était quand même sur un fil ou au bord d'une falaise et qu'on pouvait se casser les dents très facilement. On était un peu à la barre d'un bateau avec des gens qui étaient avec nous, qui avaient la même foi, y compris, parce que tu parlais des refus de financement, mais on a quand même en France malgré tout aussi d'autres pirates qui nous ont suivis, comme Patrick Sobelman, Daguette Finn, où déjà nos distributeurs jour de fête étaient sur le projet dès le scénario. Absolument. Donc il y a toujours, et moi ça a toujours été le cas depuis le début, c'est plus à chaque fois un individu et non une institution qui va me suivre. Mais cet individu, c'est une vraie force en fait. C'est aussi un mouvement de vie, d'énergie. Et tout ça, petit à petit, fait un petit bataillon et qui mène au plateau de tournage. Donc, il y avait quand même cette angoisse. Moi, les...
Sacrée angoisse, oui.
C'est un exemple, mais moi, j'ai découvert après, parce qu'on tournait une scène, j'ai une rage de dents énorme un jour de tournage, donc toute la journée, on me donnait des cachets pour tenir. la scène des femmes où vous mangez des glaces, là, c'était un calvaire. J'ai fini chez le dentiste et il m'a dit, en fait, j'ai l'impression que depuis 2 ans, vous rongez les dents, vous mordez la nuit en dormant et vous vous êtes vraiment abîmé les dents. Et c'était toute cette période du Covid, d'avant, de on va le faire, on va pas le faire.
D'ailleurs,
ouais. Ça, ouais. Mais voilà, le film est là.
Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que quand on voit le film, les gens qui ne sont pas avertis, ils se disent « Ouais, il y a un blockbuster qui nous vient d'Algérie. » Donc, du coup, alors là, c'est un peu comme Rindil. « Ah ouais, mais vous avez énormément de budget pour faire ces films, donc c'est cool. » C'est vraiment cool parce que nous, on n'a pas envie qu'on sente notre souffrance quand on est en train de filmer. Nous, on veut que... On aime le spectacle, on aime les histoires intimes aussi, on aime la poésie, on aime la beauté. Voilà.
Non, et puis on n'aime pas, ça rejoint aussi l'idée de, dans les sujets qu'on propose et les films qu'on veut faire, on a quand même assez horreur des films un peu misérabilistes. Et nous, on ne veut pas qu'on voit, si on en a, on ne veut pas montrer notre misère, ou on n'est pas là-dedans, on a un peu plus de fierté. Donc.
Voilà, grand film d'aventure, La Dernière Reine, on continue d'en parler, on écoute un peu de musique. On va écouter Raled, tiens, on pouvait entendre à la fin de Kindy le Bar au générique.
Ouais.
Et on se retrouve tout de suite.
Adore.
On adore.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
We'll be right back. وهني هنا من حبيبتي ما جابت هني هنا وصي برد وياما هني هنا من حبيبتي ما جيت هني هنا وصي برد وياما شني وياك هنا هنا بحبيبتي نشامات هنا هنا وصي برد وياك هنا هنا بحبيبتي نشيت هنا هنا وصي برد وياك
Point 1, Nuit américaine, vive le cinéma, et on continue de parler de La Dernière Reine avec Damien Ounouri, Adila Bendimerad, les deux réalisateurs. Mais Adila Bendimerad, c'est La Dernière Reine, parce que c'est vous qui l'incarnez, Adila. Dans ce film, j'ai pas forcément décrit un petit peu le point de départ, donc Alger au XVIe siècle, donc je rappelle un peu tout ça, le contexte, et puis ce personnage qui on ne sait pas finalement si elle a existé. Oui. On va en parler parce que c'est très intéressant. Donc c'est l'épouse du roi Salim Toumi qui s'est allié au corsaire Barberousse, à Rouge Barberousse, pour libérer la ville. Mais donc, peu de temps après cette victoire, enfin, quelques temps après, Salim va être assassiné, et Rouge va devenir le nouveau maître d'Alger, et donc va vouloir aussi, finalement, prendre épouse avec Zafira, cette dernière reine. C'est oui. Ça, en fait, le synopsis.
Oui, pour de la avoir la légitimité reine. Auprès du peuple qui voilà. Doute un peu sur son innocence. Voilà. Et donc, et c'est surtout cette femme a décidé de rester, et de rester dans une maison sans homme, ce qui est juste impossible, impensable. Et elle va rester dans cet Alger pour résister, ou peut-être parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix, elle n'avait pas où aller ailleurs. C'est chez elle et donc elle reste. Et il y a cet homme qui a pris le pouvoir, ce corsaire redoutable et redouté. Et elle va presque improviser politiquement et composer avec ce qu'elle est et ce qu'est la société, ce qu'est l'espace politique, ses peurs et ses courages, son courage qui surgit un peu, son fils qu'elle doit protéger, et aussi ses soifs et ses ambitions peut-être cachées.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit cinématographiquement dès le départ, ce contraste aussi entre les deux personnages, il s'inscrit directement dans la mise en scène et dans le montage. C'est-à-dire que dès le départ, on a cette séquence que je crois que vous avez ramenée d'ailleurs au montage. Au début, c'est la séquence dont on parlait avec oui. Damien, la séquence du harem avec oui. la glace. Parce que, en fait, Zafira aime beaucoup manger la glace.
La neige, pardon. C'est de la neige qu'on ramène des hauteurs d'Alger et qu'on parfume, on rajoute un peu de lait et du citron ou des fleurs d'oranger, du miel et on mange la neige.
C'est ça, exactement. On mange la neige, mais c'est...
Il n'y avait pas de frigo à l'époque.
Mais c'est vrai qu'au départ, elle incarne un peu cette neige aussi, face au feu, qui oui. serait finalement Barberousse, qui serait Rouge Barberousse, parce oui. qu'on le voit tout de suite, il y a un plan où on voit son visage oui. et on voit le feu, pour le coup.
Le boulet
de canon, juste après. Et dès le départ, c'est ça le film. C'est presque cette opposition entre le feu et la glace qui s'inscrit cinématographiquement.
Oui, et puis qu'on reprend dans une joute verbale poétique à cheval, oui. vers la fin, les deux. Voilà, c'est un leitmotiv comme ça entre la neige, elle, originaire de Méliana, qui est une région où il neige, et lui qui vient, il
des
sort d'un boulet
de canon.
Voilà, boulet de canon, le sang dès le début. C'est vrai qu'on donne le ton assez vite. Hein. Dès le début, on entre dans le film.
Et cette joute voilà. verbale, d'ailleurs, elle est intéressante parce que elle.
elle décrit le film, on en parlait à l'instant, sur cette idée de croyance. Voilà, on dit que. C'est ça, oui. C'est le chapitre, dernier chapitre, cinquième, parce qu'il y a le film est chapitré, il y a vraiment l'idée d'une tragédie shakespearienne, enfin en tout cas d'un truc comme ça, en cinq actes.
En cinq actes, avec des titres, et cette joute verbale, donc elle est dans le dernier acte, et c'est Nestrol, les gens disent, on dit que. Et c'est aussi Zafira, on dit qu'elle aurait existé, on raconte qu'il y a de la rumeur, mais il y a aussi un patrimoine immatériel. Il y a tout cet espace de désir et d'inconnu, de haine et de désir qu'ils vont avoir sur ce cheval où on est en fait avec Dali en train de jouer avec une grande proximité et on se rencontre très peu pendant le tournage parce qu'on a très peu de scènes ensemble finalement. Et à ce moment-là, faut s'imaginer qu'en arabe, c'est comme des alexandrins qu'on se dit avec Dali Ben Salah. Ce texte est assez complexe et beau en même temps. Et en même temps, il y a des enjeux de vie et de mort et de désir et de haine. Mmh. Et on est là sur ce cheval et c'était un grand moment en tout cas pour le jeu, pour nous. Ouais.
Sur la mise en scène, Damien, sur ce que je disais, ce contraste-là...
Ouais. Disons que c'est vrai que le début n'était pas prévu comme ça au scénario, mais il y avait déjà cette confrontation entre un très gros plan de Zafira, notamment une scène plus tard où elle se nettoie les dents avec ce regard caméra enchaîné par Barberousse quand il débarque et qui fait son premier assaut. Il y avait cette envie de réunir un petit peu nos deux légendes dès le début du film et montrer l'enjeu. Et c'est vrai que après moi c'est vraiment l'enjeu d'écriture et surtout après de mise en scène. J'ai des personnages qui vont avoir peu d'interactions, mais tout le film va se concentrer, c'est le cœur du film, le rapport entre les deux, et leur rapprochement physique va arriver de façon assez tardive. Du coup, j'utilise toutes les armes que j'ai en ma possession par le cinéma pour créer ce rapprochement. Et donc là, c'est vrai qu'on fait limite un champ contre champ dès l'ouverture du film. Dès qu'il y a des scènes où ils sont dans le même espace, par le montage aussi, je les rapproche. Il y a cette scène de demande en mariage à travers les voilages où... lui ne la voit pas vraiment, il voit qu'une silhouette, et elle c'est pareil, ils n'entendent que leur voix. Mais le moment où ils commencent à dialoguer ensemble dans la scène, j'élimine le voilage et je fais à nouveau un champ contre champ qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont face à face et très proches.
Il y a un bouclier qui nous sépare.
Ensuite il y a un bouclier, donc à l'image ils sont tellement proches, mais au réel il y a cette ligne, il y a une frontière, il y a un mur entre les deux. Et du coup là on rajoute, ça c'est sur le tournage, hein, cette question de ce petit insert où il lui attrape la main. De façon fugace et très puissante, en même temps très franche. Et jusqu'à arriver à cette joute verbale à cheval où ils sont séparés de quelques centimètres. Donc le film est un petit peu à chaque fois, on a peu de scènes, on a peu d'interactions, et c'est le cas avec beaucoup de personnages, mais il faut à chaque fois, ils reculent devant rien. C'est des corps brûlants, impatients, ils y vont.
J'aime bien la manière dont justement ce contraste il est travaillé par des détails. Je me rappelle aussi de cette séquence où les pirates évoluent dans un jardin, un jardin de jasmin. Et il y a le numéro 2 de je me rappelle plus son nom, de Barberousse, d'Arouge.
Le bosniaque,
voilà.
Le bosniaque, en arabe.
Qui a une manière très, très intéressante de caresser, de prendre des fleurs de jasmin dans cette scène. Mais qui dit tout, finalement, sur le contraste de ces hommes dans le territoire de la reine, quoi, presque.
Oui, puis il y a ces hommes et il y a les femmes en même temps. Oui. Il y a un chant contre chant. Encore une fois, et elles sont dans la piscine, dans le bassin des femmes. Donc, les Algéroises qui vivaient dans les hauteurs de la Casbah avaient des bassins pour les femmes et les enfants pour se rafraîchir. Donc, la petite scène de piscine entre copines, et les en contraste avec les corsaires dans le jardin.
Mais ça va vite, mais moi, la scène est courte, mais je l'aime beaucoup. Quand on revoit le film et la scène, en fait, Arouj, lui, il aime beaucoup. Tout le début de la scène, il est vraiment en admiration devant tout ça. Et nous, on regarde beaucoup ces mecs derrière, parce que tu disais Ahmed Zitouni, c'est que moi, quand je le vois, il me rappelle les 7 samouraïs à ce moment-là. On nous parle souvent de Pirates des Caraïbes, mais c'est plus, moi j'ai travaillé ce groupe comme les 7 samouraïs, comme la Horde Sauvage. Cette espèce de groupe avec une hiérarchie, mais quelque chose de très horizontal et fraternel. Et, mais Harout, lui, il apprécie tout ça. Il sent, et ça l'agace que ses copains, que sa bande, ils disent « Allez, on s'en fout, on va à la taverne ». Il leur dit « Vous comprenez rien à la beauté », mais il le dit sincèrement.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mais ce qu'on oublie dans cette scène, c'est qu'à ce moment-là, Damien et moi, on a un enjeu. C'est que c'est la fameuse scène où il dit la phrase culte connue dans l'histoire, en tout cas en Algérie, et l'histoire ou la légende où il dit je prendrai son palais, je monterai son cheval et sa femme. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? C'est des héritages, c'est un peu écrit dans du marbre. Comment on travaille les scènes où on va dire des phrases que tous les Algériens connaissent en tout cas, et ceux qui s'intéressent à l'histoire de Barberousse et de la Méditerranée, je prendrai son palais, je monterai son cheval et sa femme, bon, faut que ce soit pompant. Et donc on joue et on fait cette blague entre mecs et il lui dit mais tu montres à qui le... Parce qu'il regarde le cheval du roi, il dit la femme du cheval ou du roi? Et là Harout il fait une blague bien grasse et il dit bah les deux, ils éclatent de rire. Donc on joue aussi avec l'héritage. On joue aussi, on essaie de rendre ça vivant. Alors bon, la blague est un peu grasse, mais c'est des corsaires entre eux. Et puis il y a les femmes tout de suite en contre-champ où déjà on commence la rumeur. Donc venez là, j'ai quelque chose à vous dire. Ça chuchote dans les oreilles. Ah bon, il a dit ça? Ah oui. Papa, la rumeur prend. Est-ce qu'il a dit ça vraiment? Est-ce que comment c'est arrivé à leurs oreilles? C'est aussi ça la Casbah. C'est aussi ça Alger. C'est aussi ça la tradition orale, c'est qu'on a des faits historiques, mais la Casbah, avec tous ses ruelles, ses mystères, la façon de raconter des femmes dans les terrasses, de se dire les choses à l'oreille, d'en rajouter un peu, parce que des fois on en raconte, hein, les Méditerranéens, c'est vrai. Et on a joué avec ça, vraiment. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce passage. C'est vrai qu'à chaque fois que je le vois au cinéma, j'ai la banane. Je suis trop contente, ça me plaît, ça m'amuse.
Et c'est vrai que bon, La Dernière Reine est un film d'aventure, un film épique, et en même temps, il y a toute une réflexion sur le féminin et le masculin dans le film aussi, ce qui le rend très contemporain, parce qu'il y a toujours l'idée de faire un film, quand on fait un film historique, mais de le ramener à aujourd'hui, de le ramener au contemporain. Et ce qui symbolise un peu ça, c'est aussi la relation de Zafira avec son fils. Le fait qu'il y a une sorte de fil rouge comme ça dans tout le film, où cet enfant, finalement, il est entre le féminin et le masculin constamment. Il est entre le groupe des femmes, le groupe des hommes, constamment en fait. Et il symbolise un peu ce partage qu'on retrouve aussi à travers évidemment cette opposition entre Barberousse et Zafira.
Absolument, parce qu'il quitte enfant l'espace voilà. Des femmes, le harem, parce que là il devient adulte, et donc il part vivre avec son père qui vit avec la première épouse dans l'espace politique, le palais de la Djenina. Il n'a pas très envie d'aller avec les hommes. Et puis, cet enfant, c'est aussi il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est son fils, hein, on ne va pas décrire les relations parents-enfants, c'est l'amour dingue, inconditionnel, c'est la chair, là, c'est notre sang, c'est notre chair et notre sang, l'enfant. Mais au même temps, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ce garçon, parce que ce n'est pas une fille, elle va lui donner plein d'autorité devant la société pour justifier ses actes politiques, parce qu'elle n'en a pas le droit et qu'elle a besoin d'un tuteur. Quand on lui dit « rentre à la maison, tu vis dans une maison sans homme », ce qui crée le scandale dans sa famille, elle dit « non, j'ai un tuteur, c'est mon fils, il est trop jeune pour être son tuteur ». Et puis elle va lui faire ce geste où elle va lui dire au milieu des corsaires « dis-leur d'ouvrir la porte », ce geste qui est inspiré de Jackie Kennedy, clairement. Quand elle pousse son fils au moment où on ramène le corps, la sépulture de Kennedy, le président assassiné, Jackie va dire à son fils « avance » et fait ce salut militaire. C'est une prise de pouvoir de Jackie Kennedy à travers son fils. Ça m'a beaucoup inspirée, ça a beaucoup inspiré Damien aussi. Et ensuite, à la fin, elle le dit clairement « moi, mon fils n'a jamais voulu le pouvoir, c'est moi qui me suis imaginée reine ». Elle s'est jetée à corps perdu dans ce jeu politique et de pouvoir, tout en sachant qu'elle n'était pas légitime, mais en ayant des soifs de pouvoir aussi. Peut-être qu'elle s'est dit à un moment, c'est possible peut-être que je sois reine. Bon, et ça finit en tragédie. Comme beaucoup à cette époque, quand une femme veut transgresser, ça finit en tragédie. Pas toujours, pas maintenant. Hein, on va changer les choses quand même. Mais en tout cas, dans cette tragédie du XVIe siècle, et ce que nous raconte l'histoire, c'est que ça finit comme ça pour Zafira, oui.
Raconte un peu la fin.
Non, on va pas spoiler.
Il y aura une suite.
Oui, il y aura une suite.
Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des choix, des partis pris forts en termes de mise en scène, et notamment tout le travail sur le son. Je dirais presque que la dimension épique, elle vient aussi par ce qu'on appelle le sound design, par toute la bande son. Comment en fait vous avez travaillé cet aspect-là, Damien Onouri?
Ça, le son, c'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément. Bon, dans certains pays, c'est un petit peu le parent pauvre, des fois, du cinéma. On booste l'image, mais pas le son. Et moi, depuis toujours, depuis même mes premiers films, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, notamment grâce à Jazz en queue. Parce que Jazz en queue, ça a été quand même un des fin des années 2000, il faisait des documentaires comme 24 City ou I Wish I Knew. Et il tournait avec grosse caméra et en 5 points. Tournant en 5 points au cinéma, à l'époque, c'était quand même ces deux paires sur le plateau. Et pour du documentaire, c'était... je pense, le seul à faire ça, qui fait que nous, quand on fait Fidaï, mon ingé son, Li Danfeng, qui lui donc, a fait mon documentaire d'étudiant sur le jazz en queue, mais qui ensuite est retourné en Chine et est devenu le bras droit de l'ingénieur du son de jazz en queue. Donc il a fait 24 City et tout ça. Il fait qu'en 2011, quand on tourne Fidaï en Algérie, il arrive Kantar de Perche. Et on tourne le film, notre documentaire en 5 points. On tourne avec l'Alexa, elle venait d'apparaître, donc elle faisait 15 kilos en caméra portée. Mon monteur Mathieu, à l'époque, était mon chef-op, donc il a bien souffert. Et on a creusé ça après, le sound design, tout le temps. Mixage de Fidaï avec à la fois Danfeng et l'ingénieur du son de Jazz en queue dans un grand studio à Shanghai. Et de là, on pousse énormément de détails. Et sur l'arène, c'est ça encore, à nouveau. Il y a aussi toute cette partie qu'on a fait à Taïwan. On a fait une coproduction avec Taïwan et je vais faire les bruitages là-bas. Donc pendant un mois et demi, des bruiteurs taïwanais m'ont refait les bruits d'épée, des étoffes. Parce que ça avait du sens. Au début, on devait faire ça en France. Mais finalement, en développant la coproduction, faire des bruitages en Asie, c'était super. Ils ont cette tradition des armes, des épées, du film de sabre et de costumes. Et j'aime beaucoup apporter cette touche-là. Et après, au mixage, avec dans le fond, bon, il y avait le Covid, donc on faisait ça par Sky Connect à distance. Ils m'envoyaient, je faisais mes corrections et après on faisait ça en direct. Et oui, on poussait, on se disait, bon, on a même monté volontairement le son un peu au niveau bataille. Ils me disaient, non, mais là, c'est bien, là, c'est du Christopher Nolan, là. On envoie. Et donc, oui, nos canons, tout ça, font des sons un petit peu plus exagérés, mais c'est une espèce de aussi, dans ma, un peu, je dirais, une poésie de la guerre et de la cruauté que j'aime bien. Et le son, non, est vraiment primordial.
Voilà, Dernière Reine sort en salle mercredi. Prochain, mercredi 19 avril.
Après-demain.
Voilà, oui. Exactement. Et merci à tous les deux. Merci et bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci.
Et on vous attend en salle.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
جمار الحب شاعلة لها في صميم هجتي ما لها تهويل برياح التيهان شعلة ما تطفيها بحور ومطارها طيلة تركتني بالهيب حرها ساهي فاهي عادم الصبر جسمي صار نحيل عيب الفراق داهلة ذاتي كامل خيال ولا تنحيله.